Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
La première loi Leonetti relative à la fin de vie, loi du 22 avril 2005, proscrivait l'obstination déraisonnable et admettait l'utilisation d'antalgiques à dose suffisante en toute fin de vie, même s'il devait écourter ce qui restait de vie. Cette loi proscrivait l'obstination déraisonnable et admettait l'utilisation d'antalgiques à dose suffisante en toute fin de vie, même s'il devait écourter ce qui restait de vie. Cette loi Leonetti du 22 avril 2005 était tournée davantage vers les droits et la protection du médecin que vers le souci de prendre en compte la volonté du patient. La nouvelle loi Claeys-Leonetti remet la personne au centre du problème et insiste sur le respect de sa volonté. Cette loi porte un numéro, comme toutes nos lois, loi Claeys-Leonetti numéro 2016-87. Elle a été promulguée le 2 février 2016. Elle crée de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Ces textes réglementaires ont été publiés au Journal officiel du 5 août 2016. Je ne vais pas énumérer tous ces articles, mais en citer les principaux. Son article 1er pose en principe général que toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne, accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé doivent mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. Leur formation initiale et continue doit comporter un enseignement sur les soins palliatifs, car il est bien évident qu'on ne peut pas administrer à un malade les traitements dont on parlera sans avoir reçu un enseignement ad hoc. Cette loi du 2 février 2016, dite Claeys-Leonetti, du nom des deux députés qui l'ont préparé, confirme le principe de la loi de 2005 sur l'arrêt des soins inutiles, disproportionnés et n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie, conformément à la volonté du patient, ou si ce dernier n'est pas en état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. L'article 2 dispose que la nutrition et l'hydratation artificielle constituent des traitements qui peuvent être arrêtés pour éviter une obstination déraisonnable. Cette précision n'existait pas dans la première loi Leonetti. Et il est évident qu'on peut prolonger une vie en hydratant et en alimentant un malade avec des sondes. Et là, on rentre dans l'obstination déraisonnable. L'article 3 prévoit le droit du patient d'obtenir sous certaines conditions la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésique et à l'arrêt des traitements de maintien en vie, afin d'éviter toute souffrance et toute obstination déraisonnable. Cette sédation peut être instaurée à la demande du patient atteint d'une affection grave et incurable. L'article 4 dispose que le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques ou sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent abréger la vie. Le médecin doit en informer le malade, évidemment, la personne de confiance, s'il y en a une qui a été désignée, la famille, ou à défaut un proche du malade. Il est hors de question d'effectuer cette mise en place de façon sauvage et personnelle et isolée. La procédure est inscrite dans le dossier médical. À la demande du patient, la sédation peut être réalisée à son domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social destiné aux personnes âgées. Actuellement, vous savez qu'il y a des EHPAD, des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, eh bien, on peut administrer cette fin de vie, ces traitements de fin de vie dans une EHPAD. Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté, en l'absence de directive anticipée, la sédation doit être effectuée selon une procédure collégiale permettant à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d'application sont remplies. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation entre les membres présents de l'équipe de soins. Ce n'est pas le médecin qui va la décider tout seul. Avec l'avis d'un médecin appelé en qualité de consultant et sans lien hiérarchique avec le médecin en charge du patient. Donc une tierce personne va venir donner son avis et approuver ou dire non, ce n'est pas le moment. L'avis motivé d'un deuxième consultant peut être demandé si c'est nécessaire. Et ça, la famille peut le demander. L'article 5 rappelle que toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement et que le médecin a l'obligation de respecter sa volonté après l'avoir informé des conséquences de son choix et de leur gravité. Vous avez une tumeur maligne qui va probablement évoluer de façon tout à fait détestable dans un temps relativement court, peut-être avec des signes locaux détestables, un sarcome qui va s'ulcérer sur un sein, sur la poitrine du malade. Eh bien, il est évident que si le malade ne veut pas qu'on enlève ce qui est encore enlevable, il a le droit de le refuser, mais il faut qu'on lui indique ce qui risque de se passer si on n'enlève pas ce sarcome, cette tumeur maligne. L'article 8 dispose que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Cette directive peut être rédigée sur papier libre ou selon l'un des modèles proposés par la Haute Autorité de Santé, c'est l'arrêté du 3 août 2016, l'aide du médecin traitant ou d'un autre médecin peut être nécessaire pour leur rédaction. Il y a des personnes qui ont du mal à exprimer leur volonté, le médecin peut les guider. Ces directives anticipées sont écrites, dictées ou dictées et signées par leur auteur, qui doit être une personne majeure, identifiée par ses noms, prénoms, dates et lieux de naissance. Lorsque la personne est dans l'impossibilité d'écrire ou de signer le document, elle peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle a été désignée, d'attester que le document est bien l'expression de sa volonté libre et éclairée. Les témoins dans cette situation indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées. Les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur. Elles peuvent être confiées à la personne de confiance, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur lieu de conservation et leur détention peuvent être mentionnés dans le dossier médical partagé, dans le dossier hospitalier ou dans le dossier du médecin de ville, et il est souhaitable que ce lieu de conservation soit bien indiqué. Élément nouveau par rapport à la précédente loi Leonetti de 2005, les directives anticipées sont devenues opposables, c'est-à-dire qu'elles s'imposent aux médecins. Pour toute décision d'investigation, d'exploration, d'intervention, intervention chirurgicale par exemple, ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale, pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation, une personne s'écroule dans la rue avec une syncope, il est évident qu'on ne va pas appliquer le traitement de fin de vie tant qu'on n'aura pas fait le point de la situation. Elles ne s'imposent évidemment pas non plus quand elles sont inappropriées ou non conformes à la situation du malade. Deuxième élément important, le premier étant le caractère opposable, donc elle s'impose au médecin. Le deuxième caractère nouveau de cette directive anticipée est que leur durée n'est plus limitée. Leur durée n'est plus limitée, elles peuvent être toujours valables au bout de 10 ans ou de 15 ans, mais elles sont révisables et révocables à tout moment et par tout moyen. On peut, au bout de 10 ans, dire « après tout, je n'ai pas du tout envie qu'on m'aide à finir ma vie, j'annule ce que j'ai écrit 10 ans avant ». Elles doivent être accessibles aux médecins, bien sûr, aux proches et particulièrement à la personne de confiance dont le témoignage va prévaloir sur tout autre, notamment lors de la procédure collégiale à mettre en œuvre, lors de la mise en route d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Elle constitue un élément du dossier médical partagé ou de tout autre dossier personnel du patient. Donc deux éléments nouveaux, opposables, elle s'impose au médecin, durée illimitée. L'article 9 prévoit que toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant, qui sera consultée si elle est elle-même hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation de la personne de confiance est faite par écrit, elle doit être cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. On peut changer de personne de confiance 6 mois plus tard. En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé, qu'il soit public ou privé, il devra être proposé au patient de désigner une personne de confiance, si elle ne l'a pas déjà fait. Quand vous entrez à l'hôpital, quand vous êtes hospitalisé dans un lit d'hôpital, dans un lit de clinique, on vous demande « désignez-nous votre personne de confiance ». La loi permet désormais qu'une personne placée sous tutelle puisse désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Voilà donc les éléments très importants de cette loi Leonetti-Claes. Je répète l'orthographe Leonetti, L-E-O-N-E-T-I. Claes et l'autre député C-L-A-E-Y-S. Cette loi Leonetti-Claes du 2 février 2016 renforce les droits des personnes en fin de vie, mais elle laisse une marge d'appréciation et de manœuvre importante aux praticiens. Le Conseil constitutionnel l'a validée. Elle sera très probablement mieux connue, mieux appliquée que la loi Leonetti de 2005, qui était mal connue des médecins et encore plus mal connue de la population. Une grande étude avait été faite il y a quelques années sur les personnes en fin de vie en Île-de-France, et on s'est aperçu qu'il y avait seulement 25%, même moins probablement, de personnes qui avaient rédigé des directives anticipées. La loi Leonetti-Claes est faite pour ceux qui vont mourir et non pas pour ceux qui veulent mourir en dehors d'une infection grave et incurable. Ce n'est pas du tout une loi d'euthanasie, c'est une loi d'aide, une loi de soutien, une loi de fin de vie digne, sans anxiété, et en tant que médecin, je l'ai vécu à plusieurs reprises auprès de patients en service hospitalier. Elle apporte, je pense, la sérénité à la famille et également, elle permet à celui qui va mourir au terme d'une affection épouvantable, grave, incurable, de terminer ses jours dans la dignité et sans angoisse. Je vous remercie.